Radio Prague, les informations.
En visite en Bavière, le Premier ministre tchèque manifeste son regret des torts subis par les Allemands des Sudètes. 18 sénateurs ont signé une plainte constitutionnelle contre l'amnistie du président Václav Klaus. Enfin, Rome, dans les écoles spéciales, le Conseil de l'Europe appelle la République tchèque à plus d'efforts. Dans son discours prononcé devant le Parlement bavarois, le Premier ministre tchèque Petr Nečas a évoqué l'expulsion des Allemands des Sudètes de Tchécoslovaquie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il a cité un passage de la déclaration signée en 1997 par l'Allemagne et la République tchèque, dans lequel la Tchéquie exprime le regret des torts causés après la guerre à la population des Sudètes. Le Premier ministre tchèque a cependant rejeté en même temps la possibilité de retour en rapport de propriété d'avant-guerre dans les régions limitrophes de République tchèque. 18 sénateurs ont déjà apposé leur signature sous la plainte constitutionnelle contre l'amnistie décrétée par le président tchèque Václav Klaus en janvier dernier. Dans le cadre de l'amnistie, ont été mis en liberté 6442 détenus et ont été arrêtés 327 procédures. Au Sénat, chambre haute du Parlement tchèque, a été également organisée ce jeudi une audition publique sur les motifs et les conséquences de l'amnistie qui provoque depuis le début de nombreuses protestations. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg s'est entretenu avec son homologue bulgare Nikolaj Mladenov sur la situation de la société énergétique ČEZ en Bulgarie, où la société est menacée de retrait de sa licence de distribution d'électricité. Selon le chef de la diplomatie tchèque, les négociations de ce genre doivent être très discrètes et il ne faut publier que les résultats concrets de ces pourparlers. Karel Schwarzenberg souligne cependant que la diplomatie tchèque mène des négociations intensives en Bulgarie et aussi en Albanie, où ČEZ rencontre des problèmes semblables. La télévision publique tchèque Česká televize lancera à partir d'août prochain une nouvelle chaîne qui diffusera des programmes pour enfants et adultes. Dans la journée, la chaîne s'appellera Dečko et présentera des programmes pour enfants. À partir de 8h du soir, elle changera de nom et se transformera en une télévision pour adultes ČT Art pour diffuser des émissions d'art. La cour régionale de la ville de Nový Jičín a ordonné l'exécution des biens de la société automobile Tatra de la ville de Kopřivnice en Moravie du Nord. L'exécuteur David Koch de la ville de Cheb a décidé de la mise en vente de la société qui est incapable de honorer ses engagements financiers et dont le prix est évalué par l'exécuteur à 300 millions de couronnes, 12 millions d'euros. La procédure d'exécution ne menacerait cependant pas la production de l'entreprise. Météo, c'est encore un temps très couvert qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Lenka et Eleonora. Il neige sur la majeure partie du territoire tchèque. Les températures sont restées négatives toute la journée puisqu'elles ont varié entre moins 4 et 0 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité, ce jeudi figure tout d'abord le vote par les députés de la limitation des titres financiers anonymes, autrement dit des actions anonymes. L'adoption de cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption et devrait permettre d'éviter les détournements et blanchiments d'argent. Plus de détails dans quelques instants. Il sera ensuite question de culture avec un tour d'horizon des différents festivals et manifestations en tout genre qui seront organisés cette année en République tchèque. Et puis on retrouvera la rubrique touristique comme tous les 15 jours dans la seconde moitié de l'émission. Une rubrique dans laquelle nous vous emmènerons en Moravie, plus précisément à Brno, à la découverte de la Villa Tugendhat, classée depuis quelques années déjà au patrimoine mondial de l'UNESCO. « 160 députés sur les 162 présents à la Chambre basse ont accepté mardi une proposition visant à limiter l'usage des actions anonymes, lesquelles permettent de dissimuler le nom des propriétaires de titres financiers. Grâce à cette belle entente entre parlementaires de la majorité et de l'opposition, la République tchèque va quitter le prestigieux trio de pays, comprenant également les îles Marshall et Nauru, qui acceptent un système très utile pour détourner ou blanchir de l'argent. Pierre Ménian. Je ne sais pas à qui appartient la société AGES. Je suis convaincu que cette entreprise va très rapidement communiquer de façon pertinente et démontrable qui est son propriétaire.
Ancien adjoint au maire de la ville de Prague, Rudolf Blažek, ne savait pas à qui appartenait une société qui avait pourtant reçu d'importantes sommes d'argent de la part de son administration lors de la mise en place du système de cartes prépayées OpenCard. Cette affaire de corruption a fait grand bruit en 2009 et comme dans beaucoup d'autres, la justice était incapable de mettre un nom derrière certaines des entreprises impliquées. En République tchèque, un système de propriété capitaliste unique en Europe permet en effet aux détenteurs d'actions de rester complètement anonymes, sans possibilité de les tracer. Ces actions aux porteurs sur certificat ne sont en effet pas enregistrées, mais ne souffrent aucune restriction en matière d'accès aux commandes publiques, par exemple. La proposition du gouvernement visait donc tout simplement à mettre fin à cette situation. Et avec le soutien de l'opposition social-démocrate, elle a pu être adoptée sans difficulté. Du côté de la Chambre de commerce, cette étape est accueillie avec certaines réserves. Peter Kuhn, son président, craint notamment que son application entraîne quelques complications.
La suppression des titres anonymes n'est pas exactement la panacée, car il y a près de 16 000 entreprises fonctionnant avec ces actions en République tchèque, et il m'apparaît que les sociétés et les notaires ne disposeront en tout et pour tout que de 6 mois pour appliquer ce changement, ce qui risque de mener à un grand chaos.
Les propriétaires d'actions devront désormais s'enregistrer auprès d'une instance compétente. Leur nom ne sera pas dévoilé pour autant au public, mais la police et les magistrats pourront y avoir accès dans le cadre de leurs investigations. Par ailleurs, la belle unanimité obtenue par la proposition de loi à la Chambre des députés cache les débats parfois vigoureux qui ont animé le parti civique démocrate ODS. Le matin du vote, une majorité de parlementaires de la principale formation de la coalition gouvernementale exprimait en effet fait de vives critiques contre le texte et menacé de s'y opposer. La fronde, menée entre autres par le député Pavel Suchanek, visait à préserver l'usage des actions anonymes et éventuellement de le limiter à certains aspects. On l'écoute.
Il n'y a pas de différence majeure entre ma position et le projet de loi. Je suis d'accord quand des entreprises veulent recevoir ne serait-ce qu'une couronne de la part de l'État, mais pour les sociétés qui commercent entre elles, nous aurions dû les laisser vivre selon la loi telle qu'elle était jusqu'à présent.
En d'autres termes, ces députés souhaitaient que seules les entreprises sollicitant des deniers publics ne puissent pas bénéficier du régime des actions anonymes, comme cela se fait dans certains pays européens tels que le Royaume-Uni ou le Luxembourg. Ils considèrent que le gouvernement a soutenu une proposition populiste, à l'instar de l'infatigable Václav Klaus, président de la République en fin de mandat, qui estime que la corruption s'adaptera sans peine à ce changement.
La corruption est un phénomène qui malheureusement accompagne l'humanité depuis 2000 ans. Et il s'est révélé que chacune de ces démarches, en apparence futées et réfléchies, se sont retournées principalement contre ceux qui les ont entreprises, car de l'autre côté, on sait se transformer très rapidement et faire que les choses soient totalement différentes.
L'étude Zindex, menée sur les commandes publiques entre 2006 et 2010 par des chercheurs de l'Université Charles, a montré que les sociétés dont les propriétaires étaient inconnus ont bénéficié de 18 milliards de couronnes sur fonds publics. Les commanditaires étaient le plus souvent les CCR, la société qui gère les forêts du pays, la direction des routes et autoroutes ou encore la région d'Oustinadlabem. Selon la même étude, les firmes à actions anonymes généraient en moyenne bien plus de profits que les autres lors de ce type de contrat.
« La République tchèque accueille chaque année un grand nombre de festivals culturels et musicaux variés, tour d'horizon des plus célèbres, mais aussi de ceux où se produisent des artistes français avec Linda Salajkova.
En avant-goût, citons le plus ancien des festivals musicaux, le Festival du Printemps de Prague, qui, depuis 1946, propose aux spectateurs le meilleur de la musique classique. Il débute traditionnellement par le cycle des poèmes symphoniques « Ma patrie » de Bedřich Smetana à la maison municipale de Prague, dans la salle portant le nom de ce célèbre compositeur tchèque. Cette année, ce concert d'ouverture a été confié à l'Orchestre Philharmonique de Radio France et à son chef canadien, Peter Ungian. Au programme également, les concerts de la Philharmonie de Berlin ou de la Philharmonie tchèque, une compétition de jeunes musiciens. Au programme également, les concerts de la Philharmonie de Berlin ou de la Philharmonie tchèque, une compétition de jeunes musiciens, mais l'essentiel du programme du festival est dédié aux compositeurs et musiciens français. Au cœur de l'été, le Festival international du film de Carlo Vivare propose chaque année une quantité de films de qualité et de stars internationales. Au programme, les meilleurs films de la saison. Il est également possible de prolonger le plaisir jusqu'au bout de la nuit en participant aux soirées, parfois en tantinées extravagantes de cinéastes. Rappelons d'ailleurs que la conseillère artistique du festival, Eva Zauralova, a été récemment nommée officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, un grade attribué par le ministère de la Culture français en récompense aux personnes qui contribuent au rayonnement de leur domaine artistique et de la culture française à l'étranger. Le menu cinématographique de l'été prochain n'a pas encore été mis au point. Les candidatures des films peuvent être présentées jusqu'à fin mai et les disponibilités des personnes célèbres restent évidemment imprévisibles. Colors of Ostrava est un festival au style varié. Depuis 2012, le festival a déménagé du centre-ville vers la périphérie industrielle si typique pour la ville d'Ostrava. Désormais, le festival se déroule dans l'ancienne mine Hloubena, qui est en quelque sorte le symbole de la région. Les organisateurs de Colors of Ostrava axent leur sélection de musiciens de renommée internationale sur la qualité et en même temps sur la reconnaissance par des vrais amateurs de musique. Parmi les invités de cette année, Dafer Youssef, un musicien tunisien jouant de loute, le luth arabe. Le programme du festival comporte aussi traditionnellement des spectacles de théâtre, des débats et des ateliers divers. Si vous êtes tenté d'y aller, achetez votre billet rapidement. Ils sont en général épuisés bien avant le début du festival en juillet. Pour les amateurs du théâtre maîtrisant le tchèque ou une autre langue étrangère, notons encore le Festival international de théâtre à Plzeň, qui se tiendra en septembre. Les spectateurs peuvent voir un éventail intéressant de pièces dramatiques, musicales, de danse ou de marionnettes provenant de différents pays du monde, dont la France. Tous ces festivals peuvent être agrémentés par des dégustations de bon vin tchèque et morave servies lors des différentes fêtes de vendange, dont celles de Znojmo, Mikulov ou Mielnik sont les plus intéressantes. Les vendanges tchèques diffèrent de ce qui se fait en France avec un accent plus important mis sur le côté historique ou folklorique. Vous pouvez ainsi y rencontrer Jean de Luxembourg, son fils l'empereur Charles IV ou des femmes en costume traditionnel.
Voilà, c'est sur cette note musicale que s'achèvent ces faits événements et avec eux la première partie de cette émission. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la seconde partie. Une seconde partie dans laquelle on retrouve, comme tous les 15 jours, le magazine touristique. Un magazine dans lequel nous vous proposons de visiter une des villas les plus célèbres qui existent en République tchèque, la villa Tugendhat. Située à Brno, en Moravie du Sud, cette villa a été construite entre 1929 et 1930 dans le style fonctionnaliste par l'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe. Classée à l'UNESCO depuis 2001, la villa Tugendhat a rouvert ses portes au public en mars 2012 après 2 ans de travaux de rénovation. Il s'agit là d'une rediffusion de l'émission du 8 mars 2012.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Style dépouillé, absence d'ornement, forme claire, rigoureuse, maison cubique et blanche, et une réflexion permanente des architectes sur le bien-être. Voici comment on caractérise le style fonctionnaliste du début du XXe siècle, dont la villa Tugendhat est un excellent exemple. Avant de faire un petit tour à l'intérieur du bâtiment, un mot sur la famille Tugendhat, qui n'a finalement habité la villa que pendant 8 ans. Les époux Tugendhat, Greta et Fritz, sont tous deux issus de familles d'industriels du textile de Brno. Mariés en juillet 1928, les Tugendhat décident encore avant le mariage de construire une villa dans la banlieue de Brno, dans le quartier de Tchernapole, sur un terrain offert à Greta par son père Löfberg et qui jouxtait la propriété de cette famille. Si les jeunes mariés ont fait appel au célèbre architecte fonctionnaliste Ludwig Mies van den Rohe, ce n'est pas par hasard. Fritz Tugendhat avait, paraît-il, horreur des maisons remplies de bibelots et de petites nappes brodée, et sa femme Greta rêvait d'une demeure moderne aux formes claires et simples. Les époux Tugendhat ont rencontré l'architecte lors du réveillon de la Saint-Sylvestre en 1928, comme nous le raconte le directeur du musée de la ville de Brno, Pavel Ciprian.
Il paraît qu'il a été émerveillé par l'endroit où devait se situer la villa, par ce terrain qui surplombe la ville qui offre une vue magnifique sur Brno. Mies van der Rohe a alors aussitôt décidé d'accepter cette commande. Au lieu de fêter la Saint-Sylvestre, les époux Tugendhat ont passé toute la soirée en compagnie de l'architecte. Il leur a présenté son projet qui les a emballés.
Adapter la forme à la fonction, tel était le credo de Mies van den Rohe, né en 1886 à Aix-la-Chapelle et mort en 1969 à Chicago, où il s'était exilé à la veille de la Seconde Guerre mondiale, comme le fera d'ailleurs aussi la famille Tugendhat. En 1930, à l'époque où il achève la construction de la villa Tugendhat, Mies devient directeur du Bauhaus, la célèbre école allemande d'architecture et des arts appliqués, dont l'influence sur l'architecture moderne, le design, mais aussi les décors de théâtre, fut immense. Mies van den Rohe a notamment créé le pavillon de l'Allemagne à l'exposition universelle de Barcelone en 1929, mais c'est surtout dans la seconde période de sa création, dite américaine, qu'il sera auréolé de gloire à Chicago et ailleurs. Il réalisera de nombreuses constructions en verre, en acier et en béton. Il se fera aussi connaître par ses fameuses sentences « Less is more »,« Moins est plus » ou encore « God is in the details »,« Dieu est dans les détails ». Less is more, ce slogan de l'architecte Mies van den Rohe est également valable pour la villa Tugendhat, une construction à 2 étages, dont on ne perçoit toutefois du côté de la rue que son étage supérieur où se trouvaient les chambres à coucher et les chambres d'enfants. La pièce la plus spacieuse et la plus originale est située au 1er étage. Elle inclut la salle de réception, le salon, la salle à manger, le bureau et la bibliothèque. La principale décoration y est la lumière. Toute la façade est en verre, de façon à ce que l'espace extérieur, à savoir le jardin et la vue sur Brno, soit le prolongement de l'espace intérieur. Un détail technique important a contribué à créer cet effet. Il était possible de baisser les grandes vitres mesurant 3 mètres sur 5 mètres de façon à les faire glisser, coulisser dans le plancher. Les différentes parties de la pièce où il n'y a aucun mur porteur sont tout de même divisées par des sortes de cloisons, dont le célèbre mur en onyx, qui par ailleurs change un peu de couleur en fonction de la lumière du jour. Pavel Ciprian.
Voici le fameux mur en onyx qui provient du massif de l'Atlas au Maroc. Ludwig Mies van der Rohe, en personne, veillait à la création de ce mur pour que le dessin soit homogène. Par ailleurs, Mies a été le fils d'un tailleur de pierre, alors ce matériel lui était familier. Le mobilier que vous voyez ici est également l'œuvre de l'architecte. Par exemple, cette chaise-là, qui s'appelle Barcelone, parce qu'elle a été conçue pour le pavillon allemand à l'exposition universelle de Barcelone. Ce fauteuil s'appelle Tugendhat, ce qui veut dire qu'il a été créé précisément pour cette villa.
Alors que le mobilier d'origine qui est actuellement en possession du musée de Brno n'a pas pu être exposé, un autre mur intéressant en demi-cercle qui sépare la salle à manger est original. Il est fait en bois d'ébène de Macassar et on l'a cru perdu pendant de longues années. Finalement, il a été retrouvé dans l'ancien bureau de la Gestapo à Brno. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la villa Tugendhat a été habitée par l'ingénieur allemand en aéronautique Wilhelm Messerschmitt. À cette époque-là, les Tugendhat, d'origine juive, vivaient déjà en exil, d'abord en Suisse et ensuite au Venezuela. Après la libération, la famille a essayé en vain de récupérer la villa, qui a finalement été nationalisée en 1950. À la fin de la guerre, le bâtiment a servi d'écurie à l'armée rouge. Sous le régime communiste, on y organisait des cours de danse et ensuite des programmes de soins et de rééducation pour les enfants. La récente rénovation de la villa Tugendhat a pris du retard à cause d'un différend entre son propriétaire, la ville de Brno, et les héritiers des époux Tugendhat qui avaient souhaité qu'on leur restitue le bâtiment. Finalement, la rénovation, majoritairement financée par les fonds européens, a été lancée en 2010 et a été supervisée par une commission d'experts ainsi que la famille Tugendhat. Deux filles des propriétaires originaux de la villa, Ruth et Daniela, nées toutes les deux en Amérique du Sud, ont d'ailleurs assisté à la réouverture solennelle du bâtiment rénové. Pour différentes raisons, notre famille ne pourra plus jamais habiter ici, mais je me demande quand même s'il n'est pas possible de faire revivre cette villa, par exemple sous forme de soirée littéraire ou rencontre avec des architectes, a déclaré Ruth Guggenheim Tugendhat à l'occasion de la réouverture de la villa en mars 2012 à Brno. A noter que la villa vit déjà d'une certaine manière sa propre vie. Il a inspiré le roman de l'auteur britannique Simon Mauer, The Glass Room, nominé au prix The Man Booker Prize en 2009. Le réalisateur allemand Dieter Reichert est en train de tourner un film documentaire sur la villa fonctionnaliste et son destin mouvementé.
Et notons encore que les visites de la villa Tugendhat, située rue Tchernopolny, à Brno, à Moravie, donc, sont uniquement sur réservation. Plus de détails sur le site www.tugendhat.eu. Tugendhat, ça s'écrit T-U-G-E-N-D-H-A-T. Voilà, c'est noté et c'est sur cette précision que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy!